Wrestlingking.com.
Il est 11h24 minutes. Vous êtes dans le show Wake Up, c'est comme ça que ça se nomme. Et je tiens à vous dire que vous êtes sur le www.rockake.com, votre station de radio internationale. Pourquoi internationale? Parce que on se fait entendre du côté européen et ce, sans problème. Au bout du fil, nous avons Marie-Thérèse Urvois qui est professeure d'islamologie, bien sûr, et d'histoire médiévale et d'art de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour, Madame Urvois.
Bonjour, monsieur.
Ben, bonsoir, je devrais dire de votre côté, parce que vous êtes déjà avancé, là.
Bonjour pour vous, ou vous êtes encore en matinée.
Exactement, exactement. Pour vous connaître davantage, parce qu'on pourrait se lancer tout de suite comme ça sur les grandes questions de l'islam, mais je veux vous connaître, je veux que les auditeurs saisissent qui est Madame Thérèse Urvois, s'il vous plaît.
Voilà, donc... Je suis Marie-Thérèse Urvois et mon époux se prénomme Dominique. Nous sommes tous les deux islamologues et professeurs d'islamologie et pour moi d'histoire médiévale arabe aussi, ainsi que la langue arabe en fait. Lui à l'université publique de Toulouse, donc l'université de Toulouse, et moi-même à l'université catholique. Réputé institut catholique depuis la séparation de l'État et de l'Église.
OK. Première question qui me vient comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier l'islamologie, s'il vous plaît?
Vous savez, c'est dans la vie, nous ne choisissons pas toujours notre orientation de façon délibérée et obstinée. Je crois que tout le monde comprendrait cela. Mon époux, s'il a choisi cela, c'est parce qu'il a fait sa coopération, comme on dit, c'est-à-dire le service militaire, non militaire, en coopérant au Moyen-Orient, entre le Liban et la Syrie, et moi-même, tout simplement, parce que j'étais fille de diplomate et que notre père nous imposait, chaque fois qu'on était dans un pays nouveau, nous imposait l'apprentissage de la langue et de la civilisation du pays où nous nous trouvions. Cela a marché sur moi, inutile de vous dire que ça n'a pas marché sur tous les enfants pareils. Voilà, donc nous avons un cursus, nous sommes rencontrés de cette façon. Lui-même était lecteur et professeur ensuite à l'université et de Beyrouth et de Damas, et je l'ai rencontré alors que je finissais à peu près mes lettres classiques. Mes origines sont les lettres classiques, c'est-à-dire le latin grec en fait.
Ok, voilà. Ok. Et lorsque vous enseignez, vous passez de par où, vous commencez par quoi et vous finissez par quoi? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a un début? Vous commencez, qu'est-ce que vous donnez, si je peux dire ce mot-là, comme nourriture à vos étudiants?
Nourriture, non, c'est à vrai dire, ça serait vraiment prétentieux, je trouve, de parler d'aliments spirituels aux étudiants. S'ils profitent de mon enseignement, ce que j'ai la faiblesse de croire, c'est uniquement parce que, tout simplement, il y a un langage qui est basé sur la vérité scientifique et rien d'autre.
Okay.
Laquelle vérité scientifique est basée à son tour, fondée sur les textes eux-mêmes et rien d'autre. Donc, pas d'état d'âme, pas de politiquement correct, pas de, pas d'association de parti pris, ni de ce qu'on... Tous les thèmes à la mode de maintenant, vous savez, le monde moderne est effectivement, comme vous le voyez, il n'a jamais été aussi... il n'a jamais été aussi friand de violence, de sang, d'agressivité dans l'image des médias, que les médias nous renvoient, autant qu'il est, j'allais dire, déliquescent quand il s'agit des idées des hommes. Et cela explique, par exemple, cette fragilité que offre le monde actuellement face à un islam conquérant en Occident. Voilà. Donc, vous voyez que...
concurrent.
Ceci peut expliquer cela, et ceci également explique pourquoi les étudiants, mes étudiants en tout cas, se sentent satisfaits de l'enseignement qu'ils reçoivent.
Ok. Et lorsque vous me parlez d'un islam concurrent à l'intérieur de chez vous, ça peut être sur quelle facette exactement?
Eh bien, c'est-à-dire, vous l'avez vu, il y a eu plusieurs affaires. En fait, la montée de l'islamisme en Occident a démarré dans la pratique, en tout cas en France, a démarré en 1989 à peu près, avec ce qu'on a appelé la Grande Marche des jeunes et des moins jeunes dans la banlieue de Lyon. Et elle était conduite, cette marche, il ne faut pas l'oublier, par des prêtres catholiques, hein, des fanatiques du dialogue à tout prix, au mépris d'ailleurs souvent, et de la théologie chrétienne, mais aussi de la théologie islamique elle-même. Donc ça a démarré comme cela, et ensuite nous avons eu successivement des problèmes avec l'affaire du foulard islamique, ensuite l'affaire des caricatures, ensuite l'affaire de Benoît XVI. Bon, je ne cite que les plus connus des affaires, mais de fait la communauté musulmane en France, si vous voulez, a pris l'habitude de faire fléchir la loi civile et la République à ses exigences. Donc, et effectivement, lorsque nous penchons sur les textes de l'islam, en fait, ils ne font que s'acquitter des recommandations religieuses qui leur sont faites.
Madame Urvoy, les gens nous envoient des questions via le live@rocket.com. Est-ce que c'était la marche des beurs?
Oui, c'était des beurs, bien sûr, mais il y avait aussi des jeunes émigrants tout court. La marche, c'est pas la marche des beurs. Ils ont appelé ça la marche de, je ne sais plus, en 89, c'était la marche de Vénissieux. C'était à Vénissieux, c'est la grande banlieue industrielle et la zone industrielle du Grand Lyon. Et là, effectivement, il y avait de grands prêtres du dialogue islamo-chrétien qui trempaient leurs plumes dans ce type de littérature.
En quelle année exactement?
En 89.
En 89?
Oui, ça, c'était la première manifestation des musulmans.
Comment, est-ce que vous savez un peu pourquoi Mme Anne-Marie Delcambre a décidé d'arrêter ses interventions?
Je pense que je ne vois pas comment je peux... Oui, pourquoi elle a arrêté? Oui, parce qu'elle a été...
Elle a cessé ses interventions.
Elle a été agressée. Non? Elle a été agressée.
Exact. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment percevez-vous cela?
Comment voulez-vous que je pense quelque chose de positif de ces choses-là? Nous sommes les otages de ce que nous avons fait par erreur depuis de longues années, monsieur.
D'accord.
Bien sûr. Nous sommes là. Maintenant, nous payons une facture que nous avons laissée s'allonger par inconscience, par idéologie, depuis fort longtemps maintenant, vous savez.
D'accord. On nous a envoyé des questions toujours via le live@rocket.com. Le pape n'a pas commis d'erreur dans son discours à Ratisbonne.
Non, monsieur. Oui, alors, et ceci me révolte infiniment, de voir comme ça des prêtres catholiques sur les pages de La Croix, qui est un quotidien catholique de France, de voir comme ça sortir les mêmes défenseurs du dialogue, qui veulent le dialogue à tout prix, et qui ne rendent pas service au vrai dialogue, parce qu'ils veulent promouvoir un dialogue faussé, basé uniquement sur l'affectif, sur l'élément affectif. Or, un dialogue équilibré, respectueux de l'autre, doit toujours fonctionner sur la base de la connaissance vraie, de la vérité scientifique. Donc, j'insiste sur cet aspect et je dis que Benoît XVI et l'islam dans la leçon faite à l'université de Ratisbonne par notre, le Saint-Père, il y avait deux références à l'islam. Je donne ça par exemple.
Okay.
La première a été remarquée parce que, selon l'auteur lui-même, elle servait de point de départ à ses réflexions. Et c'est une citation d'un ouvrage de polémique interreligieuse de la fin du Moyen-Âge. J'essaie de situer pour vos auditeurs le contexte de ce discours de Ratisbonne. Alors, l'auteur chrétien que cite le Saint-Père reproche à Mahomet, entre autres, choses mauvaises et inhumaines. Je me souviens de la citation, choses mauvaises et inhumaines, et également son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Ce n'est pas le Saint-Père qui le dit. Le Saint-Père se contente de citer le Manuel Paléologue, l'empereur byzantin. Donc, disons que cela a suscité la colère des musulmans. Les uns ont réagi par la violence, avec des manifestations très agitées, appel au meurtre, comme vous le savez, et même un meurtre effectif de cette religieuse à Mogadiscio.
C'est vrai.
Donc, ensuite, prétendant défendre leur prophète, ces mêmes musulmans qui étaient ainsi attaqués, selon eux, on peut dire que leur attitude n'a fait que donner raison aux polémistes médiévaux, et non pas à Benoît XVI, aux polémistes médiévaux cités par Benoît XVI. Les autres ont voulu, au contraire, se démarquer de ces violences en demandant que l'on ne fasse pas d'amalgame. Et nous avons vu sortir, réclamé par le recteur de la grande mosquée de Paris, donc Boubacar, il réclamait que l'on considère l'islam comme l'islam était une religion, voilà, et qu'il suffisait de regarder le Coran. Et là, moi je voudrais dire,
oui,
sans polémiquer, ce n'est pas du tout les réflexes habituels de ni de mon époux, ni de moi-même, sans polémique aucune, je voudrais effectivement regarder le Coran auquel nous invite le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bon. Outre que c'est un livre complexe, comme vous le savez, ce qui signifie que c'est un livre qui c'est la preuve sans doute de ce qu'il n'est pas d'un auteur unique, ni Dieu comme le veut la foi musulmane, ni Mahomet seul comme le pensait la critique orientaliste jusqu'à nos jours. Donc on y trouve certes beaucoup d'invocations de la paix, mais on y trouve aussi beaucoup d'appels au combat. Donc je n'en citerai ici qu'un seul exemple pour ne pas être longue pour vos auditeurs, un seul exemple, laissant de côté volontairement tous les versets qui utilisent les composés du mot jihad, puisque ce mot est presque tabou maintenant, il ne faut pas dire ça parce que tout le monde, tous les musulmans ne sont pas jihadistes. Donc, mais il y a quand même, il y a toute une casuistique apologétique qui veut montrer que cette notion ne renvoie qu'à la lutte contre soi-même. D'accord, si on veut accepter cela, et c'est légitime qu'on puisse imaginer cette deuxième interprétation, il faut pas oublier, on peut pas oublier, ni faire abstraction dans la sourate 9 au verset 123 où nous lisons « Ô vous qui croyez, combattez ceux des infidèles qui sont dans votre voisinage, qu'ils trouvent en vous de la dureté ». Fin de la citation.
Okay.
Donc, ce verbe utilisé ici, il n'a aucun rapport avec le jihad. Dans le texte que Dieu a dit, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui parle dans le Coran, c'est la parole tant ultime et matérielle de Dieu vers l'humanité. Donc le verbe ici utilisé, c'est qatilu. Vous savez, je ne veux pas faire de pédantisme là,
okay,
mais qatilu veut dire combattre. Il n'y a pas possibilité d'interpréter comme font les musulmans en général, de dire oui, jihad, le verbe jihad, il parle là du jihad qui va vers le cœur, vers le mal qui est dans le cœur de chacun. Donc, et là, effectivement, ceci c'est pour souligner, monsieur,
oui,
qu'on ne peut pas traduire ce mot autrement que par l'invocation du combat physique.
Ah.
Mais bien sûr, il dit qu'atilo. Combattez ceux des infidèles qui sont dans votre voisinage. Donc c'est un ordre de Dieu à tous les musulmans de combattre les infidèles.
Comment ça s'écrit exactement?
Lequel?
Atilou.
Atilou. Donc Q-A-T-I-L-U. Okay. avec un trait long sur les voyelles longues que sont le A et le U.
Okay. Ok.
Lequel U, il faut le prononcer OU.
OU, ok.
Voilà, donc qu'a-t-il. Ce verbe, on ne peut pas l'interpréter autrement que par l'invocation du combat physique. Et tout le contexte d'ailleurs de cette sourate 9 renvoie au combat effectif. Et donc, et non pas à la lutte contre soi-même et contre le mal qui se trouve dans le cœur. Donc, et là, effectivement, ceci est le premier élément que je voudrais vous offrir, toujours dans le cadre du discours de Ratisbonne.
Oui.
La deuxième, c'est que toute la littérature classique a bien compris que l'appel au combat armé était un élément essentiel de la prédication coranique. Et je n'en veux pour preuve que cette phrase suivante du plus célèbre théologien orthodoxe, un certain Ghazali, G-H-A-Z-A-L-I, montrant son peu de confiance dans la discussion pacifique. Il dit, et là je cite, j'essaierai de mémoire, mais bon, on n'a jamais vu une séance de discussion, soit chez les théologiens, soit chez les juristes, se terminer par le passage d'un seul innovateur à un autre groupe orthodoxe. Ces passages ont lieu à la suite d'autres causes et même à l'issue d'une lutte par l'épée. Voilà ce que dit l'équivalent de saint Thomas de l'islam orthodoxe.
Jusqu'à maintenant, Madame Urvois, on essaie vraiment de saisir, ou enfin peut-être pas trouver des... Non, au contraire, on essaie de trouver des solutions pour non pas en finir avec l'islam, parce que je pense pas que ce soit un objectif qui soit à envisager, mais bien de démystifier certaines facettes, certains côtés noirs qu'il y a dans le Coran. Et nous, on le fait justement avec vous en ce moment. C'est vraiment de trouver peut-être des solutions pour essayer de nous sortir tant du côté européen, tant de notre côté...
Monsieur, c'est ce que je voudrais aussi relever comme élément. Il ne faut pas imaginer que l'islam, les musulmans, il faut distinguer d'abord, il y a deux choses.
Okay.
La première chose, distinguer la doctrine des hommes.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que cette distinction est établie, distinguer parmi les hommes, donc parmi les musulmans,
ouais,
distinguer ceux qui sont désireux d'appliquer le texte coranique à la lettre, donc respecter le texte coranique en tant que parole de Dieu à exécuter auprès de l'humanité entière, et les autres musulmans, que j'appellerais musulmans sociologiques à ce moment-là, qui eux acceptent de mettre en veilleuse. Je ne leur demande pas, on ne leur demande pas d'abjurer quelque chose de cette écriture qui leur est donnée, d'abjurer, mais de mettre en veilleuse et de, si vous voulez, de rendre le texte coranique un texte, une révélation, comme le sont les deux autres révélations avant, une révélation à progression. Car jusqu'à nouvel ordre, la révélation coranique est une révélation sans progression. Et quand je dis ça, je prends comme exemple les deux révélations monothéistes précédentes, que sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux ont subi une critique historique dès le 19e siècle, une critique historique qui a fait que le texte a progressé avec la progression de l'humanité. Alors que le texte islamique, lui, est interdit de progression. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Oui, je saisis très bien. Dans le fond, est-ce qu'on peut parler aussi de régression? Est-ce qu'il régresse? Non.
Non, il est fixé, il souffre d'un fixisme.
Okay.
qui fait qu'il ne progresse pas, donc qui ne progresse pas, il est dans un état de régression, mais pas parce que il est retourné plus bas qu'il n'était, mais parce que il est resté fixe dans son temps. Comment se fait-il?
Alors il stagne.
C'est la charia qu'ils veulent appliquer. La charia qu'ils veulent appliquer, c'est une charia qui était compréhensible, presque, je dirais, adaptée au 7e siècle de son temps. Vous me suivez comme
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Alors que maintenant, couper la main au voleur, lapider l'adultère, la femme adultère, appliquer toutes ces petites lois qu'ils veulent imposer dans les sociétés modernes occidentales, qui sont uniquement des prescriptions coraniques, encore une fois. Donc, toutes ces prescriptions sont datées. Si vous voulez, en langage plus moderne,
d'accord,
ce sont des prescriptions qui n'ont pas progressé et que les musulmans orthodoxes ne veulent pas laisser progresser parce que c'est la parole de Dieu. Et que Dieu, on n'a pas à l'interroger. Donc, si vous voulez, là on rentre dans la notion du Bila Kaïfa. En bonne théologie islamique, arrive un degré de la discussion théologique où le théologien dit, là, pour ce point-là, eh bien, c'est le Bila Kaïfa. Dieu ne se laisse pas. Dieu était indigne, on ne peut pas, nous sommes indignes, nous, créatures, d'interroger Dieu sur telle ou telle prescription ou mot ou phrase qu'il a dite.
J'ai souvent posé la question à Anne-Marie Delcambre, Madame Urvois, pourquoi tant de violence à l'intérieur de cette religion-là? Pourquoi autant de violence que ça? Pourquoi c'est aussi barbare, aussi guerrier que cela? Est-ce que vous avez peut-être une réponse à donner?
Je suis convaincu que Madame Delcambre a dû vous répondre aussi très bien.
Oui.
Pour mémoire seulement, je rappelle que précisément, c'est ce qui vous semble barbare, ce sont des mesures qui n'ont de toute évidence extrêmement humaines finalement et certainement pas d'origine divine qui émaillent le texte coranique et qui donnent l'ensemble de ce que un peu plus tard on va appeler la charia qui est élaborée ensuite par les jurisconsultes musulmans. Ces mesures, ces prescriptives qui quelquefois sont très très dures sont circonstancielles, sont conditionnées par la vie elle-même du prophète. C'est-à-dire, le prophète, surtout lorsqu'il est devenu un chef guerrier, un homme politique, un fondateur d'empire, politique également, et que le spirituel a cédé le pas au politique. Or, la religion islamique elle-même se déclare être din wa daula, c'est-à-dire état, religion et état. Donc, cette revendication de l'islam en tant que religion et état fait que, de nos jours, pour rapporter les choses à la modernité, à l'actualité, fait que vous avez, chaque fois qu'il y a des élections dans un pays islamique, le triomphe des musulmans orthodoxes, des fondamentalistes, et pour qui le slogan l'islam est notre constitution. Al-islam dusturuna, l'islam est notre constitution. Donc, cela vous dit, ça vous donne une idée, oui, de cette intimité qu'il y a entre le spirituel et le temporel. Laquelle intimité est maintenue par les musulmans 14 siècles plus tard, telle qu'elle l'était il y a 14 siècles au moment du temps du prophète. Et ça explique pourquoi certaines choses qui pouvaient se comprendre historiquement il y a 14 siècles ne sont plus tolérables maintenant dans les sociétés modernes où vivent les musulmans. Je ne sais pas si cela répond à votre question.
Oui. Est-ce que j'en aurais peut-être une autre est-ce que vous avez encore un peu de temps, Madame Urvois?
Je vous en prie.
L'islamophilie grandissante des intellectuels français. Pourquoi?
Bon, ça, c'est une question.
La peur.
Elle n'est pas spécialement, je dirais, universitaire, parce que là, nous jugeons des hommes,
c'est vrai,
et plus de la matière, n'est-ce pas, monsieur?
Oui, tout à fait. Madame Urvois, je m'excuse de vous couper, mais je tiens à vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines questions, vous me le dites, soyez franche, je vais toujours être franc envers vous, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne.
Vous êtes aimable. Non, je vous remercie. Mais non, je répondrai par quelque chose de très simple. Vous savez, la motivation de chacun de ces de certains islamophiles, effectivement, en France, et surtout parmi les intellectuels,
oui,
se justifie soit pour une motivation idéologique, c'est-à-dire ce culte que nous avons pour l'autoflagellation, battre sa coulpe, souvent sur la poitrine du voisin d'ailleurs. Pour certains, une autre motivation, tout simplement, certains veulent garder leurs avantages dans les pays islamiques où ils sont invités par leurs amis musulmans, satisfaits de leur discours. À ce propos d'ailleurs, je dis que nous sommes avec mon époux aussi invités par les musulmans des pays islamiques que ces islamophiles, sans pour autant donner des gages comme certains, et uniquement parce que ce ne sont pas les mêmes musulmans qui invitent. Vous voyez. C'est ce que je voulais dire. Parmi les intellectuels musulmans en pays islamique, il y a beaucoup de véritables musulmans modernes, contemporains, désireux de réformer les textes, réformer même la communauté islamique elle-même, la sortir de ce monde de notre âge, d'un autre âge. Quand je dis de notre âge, pas notre, le nôtre, mais d'un autre âge. Eh bien, ils veulent sortir de la communauté et ils s'appuient en fait sur des gens comme nous et non pas sur les islamophiles qui ont un discours souvent lénifiant, flatteur, toujours très flatteur pour les musulmans, etc. À ce propos, et pardon si je fais de la publicité pour le livre de mon époux, vient de sortir au seuil une histoire de la pensée arabe et islamique écrite par mon époux et qui précisément fait la part des choses dans ce qui est de la flatterie pour le monde et l'histoire arabe et ce qui est la réalité scientifique également. Donc ici nous vivons sur l'idée que que les musulmans veulent imposer d'ailleurs que le monde occidental doit son progrès et sa modernité au patrimoine arabe et islamique du Moyen Âge. Et je ne sais pas au Canada si c'est le cas, mais ici nous en souffrons beaucoup parce que
tranquillement.
À partir de ce principe, vous vous en doutez que tous les excès, toutes les exagérations, toutes les inventions pseudo-scientifiques sont bonnes pour avancer.
Tout à fait, mais nous avons eu l'histoire ici du côté de l'Ontario du fameux tribunal de la charia qui a passé à deux doigts d'être correct en soi d'exister pour justement ces gens-là qui désiraient absolument avoir leur propre loi mais à l'intérieur du Canada. Ça, j'ai trouvé ça spécial, mais ça n'a pas passé, hein, je tiens à vous le dire.
Vous avez échappé belle.
Oui, je crois. J'ai l'impression, oui, qu'on a échappé belle, Madame Mirvoy. Ici, j'ai quelqu'un via le live@rocket.com qui nous pose cette question. Il veut savoir qu'est-ce que vous pensez de la confrontation à l'heure actuelle entre l'idéologie des frères musulmans et la mouvance salafiste en France. Quel mouvement sera vainqueur?
Ah, nous, chez nous en France, en tout cas, et comme aussi dans des pays comme la Belgique ou la Suisse, en France en tout cas, nous avons des doctrinaires de qui sont les descendants des frères musulmans et qui sont des salafistes, bien sûr. Vous savez ce que c'est le mot salafiste.
Expliquez-nous-le quand même. Il y en a qui ne le savent pas.
En un mot, ce sont les nostalgiques de la vie et des principes qui régissaient la vie du temps du prophète, de la vie du prophète au début de l'islam.
Merci.
C'est-à-dire cet état islamique naissant qui était à Médine. C'est le modèle absolu que les frères musulmans imaginent pour la résurgence d'un islam authentique et d'une communauté authentiquement islamique.
Okay.
Donc c'est ça, salafi. Salaf veut dire ancêtre en arabe. Donc en France, en particulier, nous avons dans cette lignée quelqu'un appelé Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est un doctrinaire, un théologien très brillant, polyglotte. qui était interdit de séjour en France et pour lequel deux prêtres catholiques ont œuvré pour lever l'interdiction, et ceci en 99. Et en 6 ans, il a, dans les 15 jours qui suivaient l'interdiction, il avait un séminaire dans chaque grande ville de France où il pratique les séminaires et les conférences tournantes. Hein. Donc, et il est devenu le maître à penser de ce qu'on appelle l'UOIF, c'est-à-dire l'Union des organisations islamiques de France.
Okay.
Donc, alors, ceux-là sont des salafis. Voilà. Et ils ont, ce sont eux, le frère de monsieur Tariq Ramadan fait des articles pour justifier l'adultère, pour dire que c'est une bonne chose puisque elle éduque, on fait l'éducation de la femme et on la préserve dans la vertu.
Ah, d'accord.
Lorsque ceci a été établi, ben, il y avait des raisons historiques et morales pour justifier cette chose, cette mesure. Par ailleurs, également, ce sont eux qui se sont le plus manifestés, ce sont les plus actifs lorsqu'il y a des lois à promulguer en France, comme concernant par exemple le foulard islamique, par exemple.
Okay.
Mais petit à petit, nous nous acheminons vers des choses très graves. Hier encore dans l'avion, je lisais un article dans le Figaro qui expliquait que les gynécologues des hôpitaux français,
oui,
déplorent la pression et les menaces qui pèsent sur eux par les islamistes. Tout simplement parce que ils veulent des services sanitaires et médicaux et islamiques pour les islamiques qui sont en France. En fait, leur volonté, c'est de créer une société parallèle qui suivrait le code islamique, qui vivrait selon la charia, en parfaite tranquillité, une sorte d'état dans l'état, au fond. À plus long ou court terme, c'est finalement le but.
Ben, je vous poserai la question qui est la suivante. L'islamisme à l'université, ça ressemble à quoi?
Ah, ça, c'est une question peut-être qui serait très longue. Elle serait très longue, la réponse.
Ah oui?
elle est sur tant, les ramifications sont immenses. Peut-être garderons cela pour une autre fois.
Ah! D'accord.
C'est très très long. Non, sincèrement, ça serait, comment dirais-je, ça serait ne pas, ça serait très incomplet et très sommaire. Et je ne voudrais pas tomber dans l'erreur des généralités, si vous voulez.
Ah, d'accord. Ok. Mais vous avez des musulmans qui viennent à vos cours?
Ah oui, j'ai des musulmans, oui, bien sûr. Ce sont des musulmans qui appartiennent en général à cette catégorie dont je vous ai parlé et qui a beaucoup plus de mérite que les musulmans qui veulent réformer mais qui restent en Occident. Ce sont les musulmans qui restent en pays islamique. Eux, ils risquent beaucoup.
Parce que dans le fond, le Coran, à la base, est programmé pour convaincre?
Bien sûr. Et ça... au moins au printemps sortira un livre rédigé par mon époux et moi-même, enfin un livre rédigé à quatre mains aux éditions du Cerf au printemps prochain qui analyse le texte et qui démontre la logique même du texte coranique. Voilà.
Mais selon vous, Madame Urvois, est-ce que les politiciens de votre côté Ils sont pris un peu dans les deux sens. Ils essaient de démontrer que vous êtes tolérant, qu'on essaie absolument en Europe, que ce soit en France, là, de dire oui, il faut être tolérant, il faut apprendre, mais plus on agit comme ça, plus on dénonce pas ce qui se passe réellement de votre côté.
Oui, bien sûr. Là, vous savez, tolérance et intolérance. Écoutez, c'est ce que je vous racontais juste hors antenne tout à l'heure.
Oui.
Nous avons écrit il y a maintenant un an ou deux ans un livre il y a deux ans maintenant appelé Les mots de l'islam. Ça, pour comme caractéristique, c'est une collection de poches très démocratique. D'ailleurs, c'est le seul ouvrage de grande vulgarisation que nous avons écrit, lui et moi. L'éditeur, après avoir vendu la première édition de ce livre, en deux mois, il avait épuisé son stock. Alors, enhardi par ce succès, il imprime une deuxième édition. Il sort une deuxième édition. Et là, c'est le blackout. Là, c'est plus rien. Silence radio, puisque vous êtes à la radio. Donc rien. Et là, la directrice nous appelle paniquée et nous sommes convaincus que entre temps est sortie l'histoire des caricatures et également les pressions des islamistes par la terreur. C'est un terrorisme intellectuel qui est pratiqué. Pourquoi ? Parce que sur la couverture de ce livre, il y a un petit dessin qui montre Mahomet assis en tailleur et l'ange Gabriel lui apportant le Coran. À révéler, si vous voulez, à donner. La révélation descend dans les mains de l'ange Gabriel. Bon, c'est très amusant comme petit dessin, mais ça n'a rien de blasphématoire, ni de insultant, vous voyez. Car le dessinateur a coutume, pour toute la collection, les mots de, il y a les mots de l'Inquisition, les mots de la Rome antique, bon, les mots de l'islam, il a pour coutume de s'inspirer de l'intérieur, du contenu du livre, et là, il s'est appuyé sur un passage de la biographie du prophète, c'est-à-dire de la Sira, qui raconte que lorsque le prophète a reçu les premières révélations, il était très étonné. Et le dessin montre le prophète étonné et se montrant la poitrine en se disant « Pourquoi moi ?» Et nous sommes convaincus, mon époux est convaincu, ça, parfaitement convaincu que les libraires, depuis l'affaire des caricatures, ne veulent plus prendre le risque de mettre dans leur devanture ou dans leur rayonnage les mots de l'islam à cause de ce dessin.
Ok, mais moi c'est ça qui me fait rire, Madame Urvoy, à toutes les fois, on entend parler... du côté justement de ces groupes musulmans qu'ils sont tolérants mais que nous sommes intolérants et on les voit avec justement l'ambassade au Danemark, on les voit tout détruire et là à ce moment-là, moi en tant que petit citoyen vivant à Québec, qu'est-ce que je dois penser de ça, de cette façon d'agir-là? Je sais pas.
Non, là malheureusement
on tombe peut-être dans quelque chose qui est un petit peu plus...
C'est-à-dire, c'est souvent aussi la faiblesse des hommes qui, soit par ignorance, soit par faiblesse, soit par peur. Les Occidentaux baissent pavillon devant ces intolérants islamiques, devant cette agressivité des musulmans. Vous savez, en Angleterre, les islamistes, c'est London. Vous savez, le londonistan, ce n'est pas du tout une légende. C'est une réalité, malheureusement, que les Britanniques ont réalisé que lorsqu'il y a eu les attentats. Souvenez-vous.
Oui.
Et donc, je dis que c'est la faute, l'erreur de beaucoup d'Occidentaux, l'erreur de nos politiques, l'erreur de nos tolérants à nous.
De notre propre dans le fond, nous sommes une grossière erreur de notre propre démocratie qu'on a instaurée chez nous. Alors, eux, ils la manipulent à bon soin. Est-ce que je peux dire ça?
Ah ben bien sûr, ils en profitent et je vous enverrai peut-être dans ce cas-là une communication que j'ai faite à un colloque à l'étranger sur les stratégies des islamistes en Occident.
Certainement, ça va me faire plaisir.
Voilà, vous me donnerez hors antenne votre adresse.
Oui, tout à fait.
l'envoi.
Exactement. Nous aurions peut-être une dernière question. Comment endiguer cette progression de l'islam sur nos terres?
Comment
endiguer?
Oui. En informant et en formant nous à notre échelle, mon époux et moi-même, nous formons nos étudiants. Malheureusement, mon époux moins que moi, puisque lui à l'université publique, ses étudiants sont à 99,99% musulmans et arabes, maghrébins souvent. Uber.
Okay.
Et tandis que dans mon université privée, la sélection étant, mes étudiants sont exactement dans la même proportion des Européens. Donc c'est en formant cette génération, en les mettant en contact avec les textes, qui renvoient le vrai visage de la religion comme doctrine, sans oublier jamais, s'il vous plaît, qu'il faut distinguer, en leur apprenant de distinguer entre ce que sont les textes de la doctrine et également les hommes qui sont avec.
Madame Urvoy, ce fut un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui.
Merci.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir le refaire. Est-ce que ce sera possible?
C'est-à-dire, là maintenant, je dois m'absenter en voyage académique. Je serai de retour que mi-novembre. Donc, ça serait après mi-novembre, peut-être, si vous le souhaitez.
Bien, certainement, Mme Urvoy, c'est toujours c'est très intéressant ce que vous nous amenez comme discours ce matin, et rafraîchissant surtout. Sur ce, je dois vous laisser. Et j'aurai l'occasion de vous relâcher un coup de fil à peu près d'ici une demi-heure, lorsque nous serons hors d'onde, pour bien sûr avoir l'envoi en question.
Entendu. Bonsoir, monsieur.
Au revoir. Merci. Alors, c'était Madame Marie-Thérèse Urvoy, que vous avez entendu.